Victor Hugo, c'est un grand écrivain, c'est un grand dessinateur, et on sait moins que c'est aussi un grand décorateur.
Se mêle de la spiritualité, se mêle évidemment de sentiments esthétiques, quelque chose de romantique, enfin quelque chose de multiforme.
Se sent militant de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique.
J'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien les châteaux, les murs et les fresques.
Il y a beaucoup de culture.
Oui, c'est ma première visite, c'était très bien.
Va mon ami, va, la lune se lève.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je pars à la rencontre de ceux qui font l'actualité culturelle. Conservateurs, artistes, mécènes, passionnés et amateurs, ils nous parlent tous de leurs événements, leurs expositions et leurs émotions. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une rencontre artistique dans cette émission comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler photographie et même photojournalisme avec Lydie Sadin qui est mon invitée aujourd'hui, lauréate du prix Carmignac du photojournalisme 2017. Le thème était l'esclavage et la traite des femmes, sachant que l'organisation de défense des droits de l'homme, Walk Free, estime à plus de 46 millions de personnes les victimes de l'esclavage moderne, les femmes étant en première position à 80%, dont 50% de mineurs. Esclavage sexuel, domestique, travail forcé. Cette fois, la photographe Lydie Sadin a porté le regard pendant 3 mois, de février à mai 2017, sur la traite des femmes au Népal. Un reportage poignant qui éclaire un phénomène massif et tragique, mais qui est aussi une réalité encore assez méconnue. Lydie Sadin n'en est pas à son premier reportage de fond sur les droits humains et notamment la condition des femmes et des jeunes filles dans le monde. Plusieurs reportages déjà sur les mariages précoces des petites filles en Éthiopie ou encore sur l'élimination des bébés-filles en Inde ou même sur les violences conjugales en France, donc beaucoup plus près de chez nous, pour en citer quelques-uns. Elle reçoit le Visa d'or en 2007 pour son reportage « Mineur en peine » sur les conditions de détention des mineurs dans le monde. Aujourd'hui donc, lauréate du prix du photojournalisme de la Fondation Carmignac, son travail fait l'objet d'une exposition jusqu'au 12 novembre à l'Hôtel de l'Industrie à Paris intitulée « Le piège, traite des femmes au Népal ». Bonjour Lydie Sadin, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cette émission. Alors première chose, qu'est-ce qui vous a poussé à porter le regard sur le Népal ?
Bonjour. Initialement, j'avais souhaité présenter cette problématique à travers 4 pays. La France, parce que j'aime bien montrer aussi ce qui se passe chez nous. Le Liban, la République islamique de Mauritanie et le Népal, en faisant un choix à la fois géographique et géopolitique. Les membres du jury de la Fondation Carmignac, du prix de la Fondation Carmignac, m'ont invité à me centrer sur le Népal et ne choisir que ce pays-là. Et ils ont eu raison parce que 3 mois, ça aurait été un petit peu court pour couvrir les 4 pays. Et en fait, le Népal avait subi un tremblement de terre en avril et mai 2015 qui avait rendu la population et tout particulièrement les femmes très très vulnérables. Beaucoup de maris étaient morts, les maisons étaient dévastées, les femmes avaient perdu des emplois quand elles en avaient, ça venait accentuer une situation de fait où les Népalais partent beaucoup dans les pays du Golfe pour travailler, et elles se retrouvaient seules, et du coup elles devenaient la proie de trafiquants et dans une extrême pauvreté et donc vulnérabilité.
Donc ça veut dire vraiment que ce tremblement de terre est une des causes de l'accentuation en fait de cette situation qui quand même existait déjà auparavant.
Oui. Il faut pas penser que c'est ça qui a entraîné cette situation des femmes. Ça l'a aggravée, ça l'a rendue encore plus accrue. Les chiffres ont grimpé, mais c'est une traite et un esclavage qui existaient déjà de fait. Être une femme au Népal, c'est vraiment terrible parce que Elles sont considérées comme des choses, voire des biens. Elles sont mariées de force dès leur plus jeune âge. 60 à 70% des femmes au Népal ont connu la violence dans leur vie. Je pourrais dire énormément de choses. Elles sont répudiées dès qu'elles sont abandonnées ou dès qu'elles ont divorcé. Elles n'ont pas le droit à leur citoyenneté qui dépend du mari ou du père. Ce sont des sous-êtres, en fait, au Népal. C'est vraiment un pays qui est très, très violent pour les femmes.
Alors, du coup, avec votre appareil photo, hein, vous êtes partie là-bas. J'imagine que vous avez fait une enquête de terrain d'abord, avant effectivement d'aller dans des lieux précis. Racontez-nous un peu comment vous avez choisi les thématiques et les lieux où vous êtes allée rencontrer ces femmes pour faire œuvre de témoignage d'une situation qui s'apparente à un enfer, en fait, aujourd'hui.
Complètement. Il existe deux types de trafic, de traite, je devrais dire, au Népal. Un trafic interne qui concerne des femmes des régions les plus défavorisées, il y en a 24, et qui sont amenées à Katmandou dans des lieux dits de loisirs, entendre par là, sexuels. Ce sont les cabines-restaurants. Qui sont des espaces fermés et cloisonnés par des planches en bois où des hommes commandent à boire, mais pas seulement. Ils consomment aussi des femmes qu'ils choisissent dans cette cabine restaurant. Il y a les dance bars, hein, où c'est la même chose. Elles travaillent comme serveuses et entraîneuses et elles sont obligées d'accepter. On y reviendra. Les dohori, qui sont des bars chantants, où c'est la même chose, et des massage parlors, qui sont des salons de massage, où elles font des massages d'un type très particulier. Ça, c'est pour le trafic interne et le trafic externe, qui existait déjà depuis de nombreuses années entre le Népal et l'Inde, où les filles, et un tiers sont des mineurs, sont emmenées dans des bordels à Delhi, Calcutta ou Bombay. Et l'Inde était un pays de destination à ce moment-là. Depuis quelques années, on va dire peut-être 15 ans environ, maintenant elles sont emmenées, envoyées dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient, en Malaisie, en Corée du Nord, en Chine, pour plusieurs types de trafic. Les trafiquants leur fabriquent des faux passeports et des faux visas, donc elles deviennent endettées pour rembourser ces frais-là, et elles sont envoyées soit dans des usines, soit chez des particuliers, où là, elles sont mises dans une servitude d'un autre âge. On leur vole leur passeport, leur téléphone, elles sont enfermées, elles sont sous-nourries au début pour leur mettre une pression, et on leur dit, par exemple, comme dans les cabines-restaurants et dans les dance-bars aussi, on leur dit « Mais qui va te donner à manger si tu ne travailles pas ?» Elles le travaillent 21 à 22 heures par jour, première levée, dernière couchée, dans des familles très nombreuses de 8 enfants. Elles sont la proie des assauts sexuels du chef de famille, et la femme ne dit rien, par complicité. Et elles sont sous le régime aussi de la kafala, c'est-à-dire que pendant 2 ans, elles sont sous la propriété de cette famille, et si elles veulent partir, c'est un délit de fuite et on peut leur envoyer la police à leur trousse pour être emprisonnées. Et beaucoup d'entre elles, au bout des 2 ans, ne sont pas payées. Je ne vous ai pas encore précisé que les soi-disant contrats de travail qu'on leur montre leur sont donnés 3 heures avant de prendre l'avion, ce qui fait que n'étant pas éduquées, étant analphabètes, elles n'ont pas la possibilité de le lire, et souvent on leur dit tu vas gagner 250, 300 euros, et quand elles arrivent là-bas on leur dit oh non c'est 50 ou 70 quand elles sont payées, parce que la plupart de celles que j'ai rencontrées n'ont pas été payées au bout des 2 ans, ou alors c'est l'agent qui les a envoyés là-bas, qui a pris l'argent. Et beaucoup d'entre elles sont obligées d'y retourner parce qu'elles espèrent encore que la prochaine fois, ça va aller mieux. Et à chaque fois, c'est la même chose. Sans compter les viols à répétition, etc. Et bien souvent, quasiment tout le temps, elles ne peuvent pas dire à leur famille ce qu'elles ont vécu parce qu'elles vont être encore plus déshonorées. Donc elles sont emmurées dans un silence terrible.
Alors, on estime, je crois, à peu près à 20 000 Népalaises qui sont victimes de cette traite. Et comme vous venez de nous l'expliquer avec beaucoup d'émotion, vous avez évidemment été témoin de plusieurs situations. Elles tombent vraiment dans un piège. C'est d'ailleurs le titre de l'exposition, de votre exposition donc en ce moment. Comment vous avez fait justement alors pour rencontrer ces femmes? Est-ce que ça a été compliqué, voire même dangereux? Comment vous vous y êtes prise?
En effet, vous avez parlé de 20 000 femmes. Ça, c'est à Katmandou, dans le cadre du trafic interne au Népal. Dans le trafic externe, il y a à peu près 300 000 Népalais et Népalaises qui quittent le Népal pour aller dans ces pays du Golfe pour travailler. Le chiffre des femmes est très flou, puisque justement, c'est un trafic souterrain, donc on n'a pas les chiffres exacts, mais il est assez considérable. Tous les jours, il y a 1500 Népalais qui quittent l'aéroport de Katmandou, Népalais et Népalaises, et il faut aussi dire 5 à 7 corps reviennent tous les jours à l'aéroport. Ce sont des gens qui meurent, des hommes et des femmes qui meurent dans ces pays-là, et les autorités disent que ce sont des crises cardiaques alors qu'ils sont âgés de 18 à 25 ans. Alors, comment j'ai fait pour entrer dans ces différents lieux? Je passais des journées dans les cabines restaurants et les soirées dans les dance bars et le reste de ma journée aussi à contacter des femmes, à mener des interviews et à essayer de convaincre des ONG de me mettre en contact avec des filles qui étaient soit dans des foyers recueillis, soit qui étaient retournées chez elles et que j'allais interviewer. Elles étaient revenues de l'enfer de ce trafic interne ou de ce trafic externe. Voilà. Donc j'arrivais dans ces lieux, dans les cabines restaurants par exemple. Au début, je ne suis pas censée être là. C'est un lieu extrêmement masculin. Il n'y a que des hommes comme clients et des Népalais. Je suis une femme et je suis française. Et qui plus est, j'ai des appareils photo avec moi. Je suis pas censée faire des images de cette chose qui se passe de manière cachée. Donc c'est vrai que c'était pas très facile au début, mais quand on me jette par la porte, je rentre par la fenêtre, et si on me sort par la fenêtre, je rentre par la cheminée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'insiste, je reste, je discute, je parle avec la patronne, je parle avec le patron, j'explique que je fais une grande enquête sur la situation des femmes dans le monde, et y compris au Népal, que je voudrais comprendre ce qui se passe ici, je voudrais parler avec les filles. On me le refuse, je dis « ok ». Je pars, je vais dans un autre, je reviens le lendemain dans celui-là et je recommence. Les filles, Sunita, Amrita, Nilan me disent « Ah bonjour Lizzie, comment vas-tu ?» Et petit à petit s'installe un début de communication. Et là je m'assois, je parle avec la patronne qui m'a refusé la veille et je ne fais pas de photos. Pendant un mois je n'ai pas fait de photos. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois, à tel point qu'à la fin, quand j'arrivais, j'étais quasiment chez moi.
Ils étaient habitués
à me voir. Je m'asseyais, je buvais un verre d'une boisson avec eux et j'essayais de leur poser des questions. Mais elles étaient en permanence sous le regard des patrons et des patronnes. Donc j'essayais de poser des questions qui ne les mettent pas en danger. Je ne pouvais pas poser des questions frontales. Donc je posais des questions un peu générales au début. De quelle région viens-tu? Combien tu gagnes? Est-ce que tu es contente de ton travail? Et je ne demandais pas ce qu'elles faisaient avec les hommes. Dès que le patron ou la patronne sentait qu'il n'y avait pas trop de danger avec mes questions, là je posais des questions plus perfides, on va dire, plus poussées. Et là, j'obtenais des réponses. Voilà, ça s'est fait petit à petit.
Vous n'avez jamais finalement réussi à être seule avec une de ces femmes?
Si. J'ai fini par demander à une femme de rentrer dans une cabine avec moi, celle où justement elles font rentrer les hommes. Et la patronne n'est pas venue me demander ce que je faisais. Si vous voulez, j'essaie de me caméléoniser, on va dire, c'est pas un mot qui existe, mais vous comprenez le sens, c'est-à-dire de me fondre dans le décor, de faire en sorte que finalement on ne me voit plus, on ne me sent plus présente. Et ayant été animatrice socio-éducative, éducatrice, formatrice, j'ai une empathie avec les gens et ils sont une bienveillance de ma part, qui est réelle d'ailleurs, complètement réelle. Je suis là pour témoigner de ce qu'elles vivent et finalement elles doivent le sentir. Et surtout je leur dis, j'ai envie de prendre des photos de ce que tu vis ici. Si tu ne le veux pas, il n'y a pas de souci. Donc je ne prends pas de photos. Et je garde mon appareil photo en bandoulière. Et si elles acceptent que je prenne de dos, je leur propose, je le fais. Et quant aux hommes, je ne leur demande pas. parce qu'il me dirait non, et je prends des photos cachées, un peu à la Matahari.
Voilà, des photos dérobées, hein, à la dérobée.
À la dérobée. Je prends des photos quand ils sont de dos, quand ils ne me voient pas, ou quand ils me voient, mais avec un appareil photo que j'ai en bandoulière sur mon buste, et que je les regarde dans les yeux, ils ne voient pas que mon doigt appuie. Je fais la mise au point à l'aveugle, le cadrage complètement au jugé. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais je ne suis pas mécontente du résultat.
Alors justement, c'est le cas d'une des photos, hein, par exemple, enfin il y en a plusieurs, mais une des photos qui est assez frappante, hein, qui montre une scène de simulation de viol, celle-ci vous l'avez justement prise
Oui, dans un dance bar, complètement, là il m'aurait absolument pas laissé la prendre, parce qu'en fait c'est le patron de ce dance bar qui a pris une de ses employées et a fait simuler une scène de sexe ou de viol, mais franchement, ça ressemble plus à un viol. Il l'a pratiquement jeté au sol, il s'est mis sur elle, il lui tenait les mains, elle se débattait. Je sais même pas si elle le savait qu'elle allait vivre ce moment-là. En fait, quand je lui ai demandé après pourquoi vous avez fait cette simulation-là, il m'a expliqué que c'était pour exciter les clients qui étaient là, pour qu'ils aient envie de consommer plus des boissons et des femmes. Ça m'a fait froid dans le dos.
Alors ça, c'est effectivement des situations que vous avez vécues. J'imagine que ça vous a bouleversé. Ces femmes, est-ce qu'elles avaient envie de vous raconter aussi ce qu'elles vivaient ?
Alors il faut dire une chose, c'est que les femmes qui sont dans le cadre des loisirs du sexe et de la prostitution forcée, elles ont le sentiment de faire un travail où on va les forcer à avoir des rapports et de se laisser toucher. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, pourquoi tu refuses sinon on ne te donnera pas à manger, ou tes os ne vont pas tomber si tu te laisses toucher. Elles n'ont pas le sentiment d'être piégées dans un esclavage ou dans une traite. Elles ont le sentiment d'être forcées de travailler, mais au Népal, cette notion d'esclavage et de traite n'a pas lieu, si vous voulez. Ils ont un tel rapport avec les femmes qui est basé sur une violence de genre que pour eux c'est presque normal. Celles qui me parlaient de ça, ce sont plutôt celles qui revenaient des pays du Golfe, du Moyen-Orient, de Syrie, Irak, Dubaï, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite et bien d'autres, et Malaisie aussi beaucoup. Parce que les conditions étaient vraiment l'enfermement, la servitude, des conditions de travail épouvantables, etc. Mais les autres, elles ont le sentiment que c'est un travail lié au sexe, mais que c'est pas une traite.
La femme sur l'affiche de l'exposition,
Rita.
Rita, est-ce que c'est justement une de ces jeunes femmes qui a réussi à revenir et à s'en sortir, on pourrait dire, grâce à une ONG, je crois ?
Oui, en fait, Rita, pour faire court, elle a été embarquée par une soi-disant amie qui est arrivée avec des bijoux, des beaux habits, et Rita, c'est un pseudonyme bien sûr, hein, j'ai changé les noms, lui a dit « Waouh, comment tu fais pour avoir de si belles choses et tout ?» Et lui a dit « C'est facile, il suffit de travailler là où j'ai travaillé, si tu veux je t'emmène. » Donc elle est toute contente, merci, c'est adorable, etc. Mais il faut aller à Delhi en Inde. Donc elles prennent la route et cette fille lui dit ne préviens pas ta mère, on la préviendra après, sinon elle te laissera pas partir, mais tu verras, elle sera contente après parce que tu vas gagner beaucoup d'argent, etc. Elles passent la frontière, elles arrivent à Delhi dans ce bordel, et l'ami, soi-disant ami, disparaît, et l'homme la jette dans une chambre, l'enferme et lui dit mets ses habits et ses bijoux et viens travailler. Et il ne lui donne pas à manger pendant 2 jours pour lui mettre la pression. Et là aussi, c'est le même rengaine. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien à manger, etc. Donc quand elle comprend ce que c'est que le travail, elle refuse. Et là, même sentence, même phrase. Donc elle est bien obligée. Et ça dure un moment. Et un jour, elle arrive à prendre un téléphone portable d'un des clients et elle appelle sa famille qui a alerté une ONG, qui elle-même a alerté la police népalaise et qui a fait un raid conjugué avec la police indienne. Et quand je la rencontre, elle est dans un foyer à Katmandou. Et là, elle me raconte l'enfer. Et ses autres filles qui étaient autour d'elle, qui sont obligées de rester et de continuer à vivre cet esclavage.
Vous nous racontez évidemment différents exemples, différentes situations dont vous avez été témoin. C'est sûrement très difficile pour vous de me dire quelle photo peut-être porte le plus témoignage de cette traite des femmes au Népal, mais peut-être que pour les auditeurs, vous pouvez nous citer quand même quelques exemples de situations que vous avez photographiées et qui vous ont bouleversé.
Oui, en effet. Alors c'est dur de n'en trouver qu'une, puisqu'il y avait plusieurs facettes dans ce reportage, le trafic interne, externe, la frontière, etc.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire que vous montrez aussi bien effectivement ce qui se passe vraiment à Katmandou dans le pays, et puis aussi voilà, une sorte de trajet que font ces femmes jusqu'à l'extérieur, et qui sont aussi victimes dans d'autres pays.
Par rapport aux photos, on a évoqué celle donc de la simulation de viol dans la cabine dans le dance bar. Je pourrais vous parler aussi de Nilan, c'est une photo où on la voit cachée à moitié par un foulard avec des flammes or. Et Nilan a ce regard triste. Elle a été 5 fois de suite dans les pays du Golfe, entre Dubaï, Koweït, etc. Où à chaque fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a travaillé de manière... c'est même plus du travail, quoi. Elle a été esclave, pas payée et violée à plein de reprises par le patron. Et un jour, elle tombe enceinte suite à ce viol. Et il lui dit, tu ne m'es plus utile du tout maintenant, je te renvoie, parce que tu n'as pas le droit d'accoucher ici. Les femmes qui tombent enceintes doivent retourner au Népal. Et on leur donne un gratis fly ticket, return ticket, pour retourner à Katmandou. Et il sait qu'elle va être arrêtée à la douane parce qu'elle n'a pas de passeport. Et il lui dit, je vais te laisser quelques mètres avant l'aéroport pour lui ne pas être arrêté. Mais avant, on a 3 heures devant nous. Je vais t'emmener dans cette main house qui est un lieu, une sorte de bordel. Il la laisse à l'aéroport, non, sans l'avoir violée une dernière fois, avant de l'abandonner devant l'aéroport. Et elle est en effet arrêtée par la police. Elle est mise en prison, pieds et poings liés pendant des semaines, et ensuite renvoyée à 8 mois de grossesse à Katmandou. Et là, son bébé est mort-né. Voilà une histoire tragique de Nilan qui résume à elle seule, tout ce que endurent ces femmes. Et il y a une troisième photo, peut-être, sur la frontière, où Léa, de l'ONG KI Népal, intercepte une femme qui dit vouloir aller de l'autre côté, rejoindre son petit copain. Et elle est seule, et c'est donc suspect pour la police et pour les ONG, qui interceptent toutes les jeunes filles qui sont accompagnées par des hommes, ou des enfants qui sont accompagnés soit par des hommes, soit par des femmes. Cette jeune femme n'est pas capable de donner des informations sur cet homme. On lui dit, donne-moi le numéro de téléphone, on va l'appeler. Mais quand Léa de l'ONG appelle, il ne répond pas. À plein de reprises, il ne répond pas. Et elle m'explique à moi que s'il y a plein d'appels comme ça, il comprend que c'est la police et donc il ne répond plus. Donc Léa emmène cette jeune femme au commissariat de police où il y a une investigation plus poussée. On essaie d'appeler sa maman et la mère ne répond pas non plus. Quelquefois, des femmes répondent et Léa me dit que ce sont des fausses mères, ce sont des complices qui jouent. Mais ces femmes-là des ONG sont d'anciennes femmes victimes de trafic, donc elles savent déjouer les pièges et les faux mensonges. Enfin, les vrais mensonges, voilà. Et quand je prends une photo de cette jeune femme qui est donc en cours d'investigation par la police et l'ONG, je remarque à gauche un homme, un trafiquant, derrière des barreaux dans la cellule de garde à vue, qui porte un t-shirt sur lequel il est marqué « I am not in danger, I am the danger ». Je ne suis pas en danger, je suis le danger. En fait, il nous nargue. C'est une coïncidence, bien évidemment. Mais il est derrière les barreaux et il porte ce t-shirt. J'ai trouvé que c'était incroyable de coïncidence, je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Et en fait, Léa a été mise après auprès d'une femme policière pour continuer à mener l'enquête. Et une autre fois, j'ai pu suivre l'arrestation d'un trafiquant qui a fini derrière les barreaux. Et lui, il prendrait 7 à 15 ans de prison. Mais comme me dit le policier, c'est jour et nuit. Donc c'est divisé par 2. No comment.
On se pose la question de savoir quand même si au Népal, cette situation est connue. Est-ce qu'il y a des personnes qui en prennent acte et qui essayent de combattre ce trafic, cette traite?
Alors, oui, en effet, il y a plusieurs ONG, comme Mighty Népal, comme K.A.E. Népal, et Planète Enfant, qui est là depuis longtemps et qui m'a aussi aidée sur le terrain, Planète Enfant et Développement, qui, avec d'autres ONG, se mobilisent pour sensibiliser. Ils font ce qu'on appelle des mobile camps pour aller dans les campagnes, dans les villages, pour informer sur la situation. Ils ont aussi fait tous ces points de contrôle dans les postes frontières avec la police. Et par rapport au mobile camp, il faut dire en fait que au Népal, il y a outre une extrême pauvreté, il y a un déficit énorme d'éducation qui touche tout particulièrement les filles. Donc il y a besoin de faire beaucoup de rencontres par voie orale pour leur expliquer que ce sont ces offres d'emploi sont des leurres et qu'il ne faut pas le croire. Mais le problème, c'est qu'il suffit qu'on leur propose ça pour qu'elles aient envie d'y croire, parce qu'elles ont besoin d'y croire. Quand ce sont des amis, des cousins, des oncles, des parents, des pères qui leur font miroiter cela, comment voulez-vous qu'elles n'y croient pas ? J'ai même rencontré une fille, Saru, qui m'a dit avoir été vendue par elle et sa mère dans un bordel de Delhi par son beau-père. C'est aussi des proches qui sont les personnes les plus dangereuses aussi pour elles. Donc c'est un véritable piège. Il y a ces trafiquants étrangers, mais aussi ces proches, ces amis, ces familles qui sont dans une telle précarité, une telle pauvreté, que ça devient un peu une lutte de chacun pour soi.
Alors aujourd'hui, Lydie Sadin, votre travail est exposé à l'Hôtel de l'Industrie à Paris jusqu'au 12 novembre. Chacun peut donc aller voir cette exposition en entrée libre, se faire sa propre idée, vagabonder devant vos photographies donc, qui témoignent de cette réalité. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de ce travail, de ce reportage, de son impact ou plutôt de sa portée ?
Bah précisément, ça découle de ce qu'on a dit juste avant, à savoir que j'espère contribuer à une plus grande sensibilisation et information des Népalais et des Népalaises, surtout sur cette traite, parce que plus on en parlera et plus elles seront au courant, et elles ne le sont absolument pas pour l'instant. Et j'espère, c'est une proposition que je fais, c'est d'envoyer cette exposition au Népal. Soit sous forme de tirage qui pourrait circuler ou même d'un diaporama avec ou un film et un diaporama de ces photos qui serviraient précisément dans ces mobile camps pour toutes les ONG et associations qui œuvrent pour prévenir ces filles. J'en serais ravie parce que ça serait un juste retour des choses, et la seule crainte, c'est qu'elles soient peut-être un peu stigmatisées. Donc je pense qu'il faudrait envoyer des photos où on les voit le moins possible. Mais je pense que ça, elle pourrait être aussi fière de contribuer à sensibiliser ses sœurs dans un esprit de sororité, comme on dit, un esprit de fraternité.
Merci beaucoup Lydie Sadin de nous avoir raconté donc votre reportage. Grâce à vous, effectivement, la traite de ces femmes népalaises est mise en lumière. C'est un sujet dont on parle très peu finalement.
Absolument.
Donc votre travail a vraiment cette importance-là. Il y a un livre aussi qu'on peut découvrir qui rassemble donc des photos de ce reportage.
Aux éditions Skira, qui ont fait un très beau travail.
Et évidemment donc l'exposition jusqu'au 12 novembre à Paris. Voilà, merci beaucoup.
C'est ouvert tous les jours de 11h à 19h, y compris le samedi dimanche, et avec une nocturne le vendredi jusqu'à 22h.
Très bien, merci beaucoup, on a plus qu'à y aller, merci.
Merci à vous.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.